Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Jamais été aussi nombreux, 25 000 l'an dernier, les alpinistes amateurs se bousculent pour gravir le Mont Blanc. Certains, avec un mépris total de l'environnement, jettent sur place leurs poubelles ou leurs emballages. Mais un grimpeur britannique vient de battre le record d'incivilité. Il a abandonné près du sommet un objet très encombrant.
Embouteillage sur le Mont Blanc, la saturation dans le refuge du Goûter à 3835 mètres, dont les 120 places sont rapidement occupées au beau jour, comme le rappelait dès 2018 le journal de France 3, une fréquentation qui multiplie les risques d'accident.
Est possible votre ami ne pas regarder par la fenêtre, per favore? Grazie mille.
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. La Story se met à partir de cette semaine en mode été et je vous propose pour commencer d'écouter 5 épisodes qui fleurent bon les vacances et la lutte contre les effets du tourisme de masse. Aujourd'hui, deuxième épisode de la série, direction le plus haut sommet des Alpes.
J'ai perdu le Mont Blanc dans la neige.
Pauvre Nougaro qui a perdu le Mont Blanc offert par Nadège. Le stylo, pas la montagne, car le Mont Blanc n'est pas près de disparaître, à part peut-être dans les nuages lorsque le plafond est bas. Le Mont Blanc culmine toujours dans les Alpes, imperturbable, malgré les nombreux touristes qui viennent chaque année tenter l'ascension ou juste profiter de la beauté des paysages.
J'aimerais te poser la question que tout le monde se pose. Pourquoi tu fais ça ?
Nadia.
Salut, je veux un mec qui assure.
Je ferais n'importe quoi pour toi. Je montrais même l'Everest, si
Fanny. Bah oui, tu montrais l'Everest. Deal.
Deal de merde.
Alors, je n'ai pas dit l'Everest comme dans l'ascension avec Ahmed Silla, mais le Mont Blanc, c'est plus près, moins haut et surtout plus accessible. C'est là que s'est rendue Pauline Jacquot pour les Échos. Bonjour Pauline.
Bonjour Pierrick.
Vous vous êtes rendu à Saint-Gervais, alors pas pour partir à l'assaut du géant des Alpes façon frison roche, mais pour observer les grappes de touristes qui rêvent d'atteindre ce sommet de l'Europe occidentale. Le Mont Blanc, c'est un mythe?
Alors oui, c'est vraiment un mythe, c'est une ascension qui continue de faire rêver partout dans le monde. Le Mont Blanc a un rayonnement international très impressionnant. Je m'en suis rendu compte en allant sur place, il y a des touristes de toutes les nationalités, des Chinois, des Russes, beaucoup de touristes asiatiques, mais des touristes aussi qui viennent d'Europe, beaucoup de touristes d'Europe d'ailleurs, de pays assez proches, la Suisse, la Belgique. Donc voilà, c'est encore une ascension qui fait rêver, et c'est le cas depuis la première ascension en 1786, le 8 août 1786, deux alpinistes français, Jacques Balma et le docteur savoyard Michel Gabriel Paccard. Donc depuis ce temps-là, le Mont Blanc, c'est un mythe pour tout le monde.
1786 pour la première ascension, les équipements ne devaient pas être les mêmes qu'aujourd'hui. Je suis tombé d'ailleurs sur un film muet et en noir et blanc de 2006 montrant l'ascension du Mont Blanc par Joseph Vallaud et son équipe avec leurs piolets, leurs chapeaux et leurs gros sacs à dos, passant une certaine bosse du dromadaire et arrivant devant la mauvaise arête à 4700 mètres qui démarque la frontière entre la France et l'Italie. À ce propos, Pauline, le Mont Blanc, c'est combien de mètres ?
Alors, c'est 4807 mètres et 80 centimètres, c'est très précis, parce que maintenant, le Mont Blanc est mesuré tous les deux ans par des glaciologues, des experts. Il varie, c'est une hauteur qui varie parce que ça dépend un petit peu de la couche de neige éternelle en fonction des vents d'altitude, des précipitations. Donc voilà, il peut être plus ou moins haut. Mais si on prend que la roche, le sommet rocheux, c'est 4792 mètres. Voilà, vous saurez tout.
Ouais, c'est quand même très haut, c'est le toit de l'Europe, dit-on. Un toit que de plus en plus d'alpinistes chevronnés ou non rêvent d'atteindre.
Alors, il y a toujours eu beaucoup de monde sur le Mont Blanc. Ça a toujours été l'itinéraire le plus populaire de France, cette voie normale, cette voie royale d'ascension du Mont Blanc. C'est environ 25 000 personnes chaque été. Donc ça fait à peu près 250 personnes par jour au maximum. Mais surtout, ce qui est problématique, alors il y a beaucoup de monde, c'est réglementé, on va le voir, on va l'expliquer, mais c'est qu'il y a des gens plus ou moins entraînés, plus ou moins expérimentés. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui pensent que c'est une petite ascension comme ça qu'on peut faire sans problème. Il y a un guide qui me racontait que un de ses clients disait « mais il n'y a aucun problème, moi je peux faire le Mont Blanc, je prends jamais l'ascenseur ». Ouais, alors c'est pas tout à fait la même chose. Vous pouvez prendre l'escalier tous les jours, mais pas être armé pour le Mont Blanc. Et le problème, c'est que des gens, pendant l'ascension, pas assez entraînés, ont le mal aigu des montagnes, donc on manque d'oxygène. Et ça, c'est quand il n'y a pas assez de globules rouges. On ne fabrique pas assez de globules rouges dans le sang. C'est parce qu'en fait, on y va trop vite, trop fort, et on n'est pas assez entraîné.
Moi, ça ne m'est pas arrivé en montant les monts d'Arrée, hein, mais c'est vrai que ça culmine beaucoup moins haut. 20 000 personnes, 25 000 personnes qui tentent l'ascension, ça fait beaucoup de monde pour un espace encore sauvage. Il n'y a pas des repos à tous les coins de rue. Vous parliez d'une voie royale. D'ailleurs, comment est-ce qu'il faut faire pour se rendre sur le Mont Blanc ?
Alors, vous avez plusieurs solutions. Ça dépend un petit peu de votre niveau et du temps que vous avez devant vous aussi. Il y a quatre itinéraires majeurs en fait, pour le Mont Blanc. Donc, la voie normale, c'est celle dont on parle aujourd'hui, celle qui passe par l'arête des Bosses. C'est la plus facile techniquement, donc la plus empruntée. Vous avez la voie des Trois Monts, qui passe par le Mont Maudit. La voie des Grands Mulets, c'est l'itinéraire historique, donc celui qu'ont emprunté les deux alpinistes en 1786. Et puis, l'enchaînement Aiguille de Bionnassay-Mont Blanc. Donc celle-là, elle est très technique, elle est très belle apparemment, mais bon, j'ai pas vérifié avec mon niveau. En ce qui concerne en tout cas la voie normale du Mont Blanc, on y accède très souvent par Saint-Gervais-le-Fayet, donc c'est la gare. Et dans cette gare de Saint-Gervais-le-Fayet, enfin dans la ville, il y a un petit train qui s'appelle le tramway du Mont-Blanc, qu'on prend, un petit train vert, rouge, bleu, ça dépend de l'heure à laquelle vous prenez le train. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris ce petit train, il était 8h20, c'était le premier train du matin, c'est ce qui s'appelle le train des alpinistes, donc on entend derrière nous cette ambiance dans le train. Le train commence à monter, il met 30 minutes, 40 minutes, presque une heure, mais honnêtement, on ne voit pas le temps passer. Vous traversez des paysages magnifiques, il s'arrête à plusieurs endroits, et à chaque fois, il y a des petits groupes qui montent dans ce train. Alors, il y a des alpinistes, évidemment, mais il y a aussi des familles qui viennent avec des enfants juste pour faire la traversée, pour profiter de cette vue dans le train et faire des petites promenades. Et vous arrivez par ce train à 2372 mètres d'altitude. C'est le refuge du Nid d'Aigle, le terminus, et c'est à ce moment-là que commence ce qu'on appelle la marche d'approche vers le Mont Blanc.
Ouais, c'est-à-dire que là, il reste encore 2 kilomètres de dénivelé. Hein.
Et le plus dur reste à faire.
Ce sont des gens qui n'ont pas l'éducation de la montagne, qui n'ont pas l'éducation de l'alpinisme et qui y viennent pour une fois, c'est-à-dire qu'ils n'y reviendront jamais et ils se moquent donc parfaitement de la trace qu'ils vont laisser au Mont Blanc ou dans le milieu naturel.
On vient d'entendre le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Payex, dans une interview à France 24. Il dénonçait le manque de considération des visiteurs pour l'environnement. Et en 2017, il a décidé de limiter le nombre de visiteurs. Pour quelle raison ?
Alors, ça s'est passé en plusieurs temps. En fait, Jean-Marc Payex, ça fait des années qu'il milite pour réguler cette voie d'accès au Mont Blanc. C'est son combat, ça a été son combat toujours. Depuis 2003, en fait, il raconte très souvent dans les interviews, c'est un habitué des médias, il a cessé de répéter ce discours d'année en année. Et il raconte lors d'un déplacement, il va avec un officiel, il monte au Mont Blanc, et là, fonte des neiges, voilà, et les déchets remontent à la surface. Il se dit, mais c'est pas possible, c'est sale, on peut pas laisser le Mont Blanc dans cet état-là. Depuis 2003, il se bat tous les ans, il interpelle les politiques pour dire « il faut réguler ». Et il a été entendu en 2019, Emmanuel Macron a fait un déplacement en Haute-Savoie, déplacement assez médiatisé, et à ce moment-là, le président de la République annonce « ok, on va réguler, j'entends, on va faire quelque chose ». Et c'est là qu'émerge cette idée d'arrêter de protection des habitats naturels, c'est ce qu'il s'appelle l'APHN. Alors c'est normalement pour préserver un patrimoine et une biodiversité. C'est pas totalement adapté au Mont Blanc pour réguler les touristes, etc. Mais à Saint-Gervais, à Chamonix, on explique que c'est ce qui allait réguler le plus vite possible. C'était une manière de réguler assez rapidement. Donc c'est ça qui s'est passé. L'APHN a été prononcée et signée en 2020. C'est une protection, un arrêté qui concerne 32 km². Donc vous voyez, en fait, si on considère l'ensemble du massif du Mont Blanc, qui fait 400 km², qui s'étale entre l'Italie, la Suisse et la France, 32 km², c'est pas grand-chose. Mais c'est déjà ça. Alors cet arrêté, il prévoit par exemple des réservations obligatoires dans les refuges. C'est-à-dire que tout alpiniste qui monte au sommet du Mont Blanc doit avoir réservé sa place dans un refuge, très important. Et surtout, il y a des contrôles maintenant. Des gendarmes, une brigade blanche, on le verra aussi tout à l'heure, qui vérifient, qui contrôlent si chacun a bien son pass, en quelque sorte, pour accéder au sommet du Mont Blanc.
Là, par contre, il n'y a pas de contrôle.
Non,
pour, pas
prendre le, pour prendre le petit train, il n'y a aucun problème. On prend son train, on prend son billet à la gare, on peut monter. Et il y a beaucoup de touristes qui le font, d'ailleurs, hein, qui montent, qui s'arrêtent au refuge du Nid d'Aigle, qui prennent un petit sirop de menthe et qui redescendent. Voilà, ça, c'est tout à fait possible. En revanche, pour s'engager sur la voie, pour tenter l'ascension, il faut réserver.
L'environnement encore avec cette opération de nettoyage d'une des merveilles de l'Europe, le Mont Blanc. Il est de plus en plus accessible, tant mieux, mais il est de plus en plus souillé aussi. Bouteilles en plastique, emballage de sandwich. L'été dernier, la fonte des glaces consécutive à la canicule a révélé un triste spectacle, d'où cette campagne qui commence dans les jours qui viennent.
À 4810 mètres là-haut, le Mont Blanc et sa neige immaculée. Ici, le refuge Valo et ses déchets laissés par l'homme.
J'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Et on a un peu de tout, hein, des fruits secs, une pomme, lyophilisé.
Pas de passe sanitaire pour le Mont Blanc, mais un QR code pour montrer qu'on a réservé sa place au refuge. C'était rendu nécessaire par le manque de correction de certains visiteurs, comme on peut l'entendre dans ce reportage de France 2 datant de 2004, une archive de l'INA. Ce n'était plus un refuge, mais une porcherie. En 2018, il n'y a eu pas moins de 11 000 nuitées dans le seul gîte du goûter qui frisait souvent la surpopulation.
Oui, alors exactement, 2018-2019, dans la bouche des locaux, c'est souvent les années qui ont été les pires, où vraiment ils n'en pouvaient plus parce qu'il y avait trop de monde, les gens ne réservaient pas forcément dans les refuges, alors il y avait des situations complètement intenables où en fait les gens arrivaient, alors comme vous disiez, on ne peut pas les mettre dehors, on ne va pas les mettre dehors alors qu'il y a une tempête, donc on les met à l'intérieur du refuge, certains ont réservé, d'autres non, tout le monde dort sous les tables, sur les tables, enfin, situation inextricable, il faut bien voir que dans ces refuges, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui font à manger, il y a une réserve de nourriture spécifique, hein, c'est pas un supermarché, donc il faut aussi envoyer les repas, il faut servir à temps, il faut... Donc tout ça faisait qu'en fait, il y avait des situations où les gens ne dormaient pas bien, n'avaient pas à manger, voulaient pas payer, et donc il y a eu des bagarres, d'après Jean-Marc Péex, le maire de Saint-Gervais, qui dit ils se battaient là-haut, et on était vraiment dans des situations complètement hallucinantes.
Une rixe à 3825 mètres au-dessus du niveau de la mer. Encore un qui avait dû commander une crêpe au sucre.
Ah oui, certainement. Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière.
Ah non, 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 je m'excuse, monsieur. Nous ne faisons pas cela ici. Vous êtes trompé d'établissement. Vous avez toutes nos crêpes sur la carte.
Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus.
Oh, mais qu'est-ce que c'est, ce type-là? On croit rêver.
C'est vrai, on s'est dit qu'il se croit celui à la tête de con. Bon, alors qu'on te revoit plus ici, hein.
Trailers qui montent en courant en basket, il y a des gens qui n'ont jamais fait de montagne, qui veulent faire le Mont Blanc, qui n'ont jamais mis des crampons.
Les grandes agences de voyage qui disent que le Mont Blanc, c'est à la portée de tout le monde et qu'il suffit d'avoir un tout petit peu d'entraînement pour le faire.
Les montagnards regardent avec circonspection ces touristes de la montagne qui partent à l'assaut du Mont Blanc comme si c'était la dune du Pilat. On entend leurs commentaires dans ce documentaire de 2018, Mont Blanc, noir de monde, c'est un bon titre. Comme l'Everest, le Mont Blanc est victime de son succès, car un tel sommet, ça se mérite?
Alors oui, ça se mérite, on en parlait un petit peu tout à l'heure, il faut être préparé, il faut être sportif, il faut avoir du souffle, il faut se préparer à avoir moins d'oxygène en altitude, donc tout ça, c'est vraiment pas à prendre à la légère, et c'est ce qui est très reproché hein, par les locaux, par le milieu de la montagne, hein, sur place, c'est que quelquefois les gens arrivent, pour vous donner un exemple, il y a quelqu'un qui arrive à l'aéroport de Genève, il sort de l'aéroport, il prend son bus, il arrive à Chamonix, il veut faire le Mont Blanc, il repart le lendemain. Ça, c'est pas possible. Ils disent, mais il faut prendre le temps. La montagne, ça se mérite. Il faut être en condition. On peut pas faire le Mont Blanc comme on fait une attraction, un parc touristique, voilà, quoi que ce soit. Donc ça, c'est important. Et puis, il faut aussi rappeler à tout le monde que la voie normale, elle est certes moins technique, mais elle est très dangereuse. Et encore cette année, les autorités ont alerté. C'est très dangereux, notamment à cause de la chaleur. Il y a des éboulements. Le couloir du Goûter, donc ce fameux couloir pour aller du refuge de Tête Rousse jusqu'au refuge du Goûter, c'est surnommé le couloir de la mort pour une raison, parce qu'il y a eu plus de 100 morts depuis 1990. Et un tiers des personnes meurent à cause d'éboulements. Donc il y a des roches vraiment qui se décrochent complètement de la montagne. Et ben voilà, quand vous prenez une pierre, évidemment, ça, c'est très dangereux. Donc maintenant, il y a même des plages horaires, hein, enfin depuis des années, mais pour dire il vaut mieux partir le matin très tôt, donc les autorités et la compagnie du Mont-Blanc notamment essaient de mettre des trains plus tôt pour que les alpinistes puissent partir à 7h du matin. Mais voilà, c'est dangereux et il y a des morts tous les ans, hein, à peu près 4 par an.
On a entendu et on entend encore ici hein, le bruit d'un éboulement. C'était le 15 juillet dernier sur le couloir du Goûter. C'est assez impressionnant. Le manque de préparation dont on parlait, le côté parc d'attraction à la montagne, c'est quelque chose que vous avez constaté lors de votre expédition, Pauline ?
Alors, disons que ce n'est pas la règle générale. J'ai vu notamment deux touristes français qui sont partis de ce refuge de Tête Rousse, donc après la marche d'approche qui dure déjà à peu près une heure et demie depuis l'arrêt du petit train, et qui partaient sans crampons, sans piolet, sans équipement, à l'assaut du couloir du Goûter. Donc heureusement, ils ont été rattrapés par les gendarmes et la Brigade Blanche en l'occurrence, mais il y a eu des éboulements. Nous, quand on a fait la marche d'approche pour monter ces 800 mètres depuis l'arrivée du petit train, on a vu des pierres se décrocher à droite, à gauche, on voit des éboulements, et eux partaient sans aucun équipement, en disant « Ah bah oui, mais je voulais juste montrer à ma femme à quoi ça ressemblait ». Bah oui, mais non, parce que même si on s'approche du couloir du Goûter, c'est dangereux parce que les éboulements, bah, ils s'arrêtent pas au couloir du Goûter, ils vont aussi à droite, à gauche. Donc oui, il y a ça, mais ça reste une exception parce que de plus en plus, les règles et le message commencent à passer auprès des touristes.
Il rêvait de ramer au sommet du Mont Blanc. Alors ce Britannique, ancien des commandos marines, s'est lancé dans l'ascension, avec son engin de musculation de 26 kilos sur le dos. Son aventure, il l'a médiatisée sur les réseaux sociaux et à la télévision. Mais les mauvaises conditions météo l'ont contraint à rebrousser chemin.
En 2018, il y a des Lettons qui ont tenté de monter un mât de 10 mètres pour y faire flotter leur drapeau. Un autre a tenté de monter avec un engin de musculation, c'était un Anglais. Et pourquoi pas une baignoire au rayon du grand n'importe quoi. Il y a un changement de profil des touristes.
Oui, alors c'est ce qu'on disait justement, comme les messages et les règles commencent à être imprimés par les touristes et que les messages de prévention, la pédagogie hein, faite aussi par tous les... Il faut vraiment être clair là-dessus parce que tout le milieu de la montagne, là, que ce soit les gens à l'office du tourisme, les mairies, les guides, vraiment ont systématiquement ces messages de prévention vis-à-vis des touristes. Ça commence à être intégré.
Mais auparavant, on voit hein, beaucoup de gens maintenant, on se balade avec son téléphone portable. On veut mettre sa photo du Mont Blanc sur les réseaux sociaux en disant j'y étais. Là aussi, ça a été
exactement,
vraiment...
Là, c'était la culture Instagram, hein, notamment dont parle le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Payet, c'est aussi le maire de Chamonix. C'était le problème de ces touristes qui veulent faire le Mont Blanc, comme on fait le marathon de New York, comme on fait quelque chose où on coche une case. Et cette logique-là, elle est combattue. Et c'est en train de changer, justement.
Alors, la mairie a décidé de limiter le nombre de visiteurs quotidiens avec l'appui de l'État. Comment fait-elle respecter cette décision ?
Alors, pour vous raconter tout ça, je vais vous partager mon expérience de reportage. Donc, comme je vous ai expliqué, j'ai pris le petit train à Saint-Gervais pour monter vers ce refuge du Nid d'Aigle, donc à 2300 mètres. Mais je n'ai pas pris ce train toute seule. J'ai été accompagnée de cette Brigade Blanche. Donc, la Brigade Blanche, ça a été quelque chose qui a été créé par la mairie de Saint-Gervais. C'est des anciens gendarmes et des anciens militaires qui connaissent très bien la montagne. Donc, on prend ce train ensemble. Et là, les deux membres de la Brigade Blanche avec lesquels je suis commencent à contrôler dans le train, commencent à demander aux gens s'ils ont leur réservation pour les refuges. Ils ont une liste, ils sont en liaison directe avec le gardien du refuge qui leur transmet toutes les informations. Un surligneur, un stabilo dans la main.
Bonjour, tu vas au Goûter ?
Oui.
Et ils vérifient que les gens ont bien leur réservation. Dans l'ensemble, tout se passe bien. Les alpinistes, généralement les groupes avec les guides, ont leur réservation. Ils déclinent leur identité et la Brigade Blanche vérifie.
When I don't have booking, I don't.
If you have no booking, you can't climb.
Okay.
Mais quelquefois, moi j'ai vu ça qu'une seule fois hein, sur toute la journée où je les ai accompagnés, un touriste qui n'a pas sa réservation. C'est un jeune Polonais donc qui a dû faire demi-tour. La Brigade Blanche a dit no booking, no climbing, pas de réservation. Vous ne passez pas, vous faites demi-tour, et voilà, il a repris le petit train, et direction bah, la gare de départ, Saint-Gervais-le-Fayet, le Mont-Blanc, ce sera pour plus tard.
Ouais, c'est un peu la version savoyarde de pas de bras, pas de chocolat. Comment ces restrictions ont-elles été accueillies par les locaux ?
Alors au début, pas très bien, hein. Le maire de Saint-Gervais raconte, la Brigade Blanche aussi, hein, les membres de cette brigade m'ont raconté, au début c'était pas facile, hein. Ils se mettaient dans la montagne à plusieurs niveaux, ils demandaient les réservations, etc. Quelquefois ils se faisaient insulter par les guides, par les gens qui comprenaient pas bien. Il faut savoir que dans cette culture montagnarde, une alpiniste bien connue de la région, Liv Sansoz, m'en a parlé, qui est ancienne championne du monde d'escalade, qui est une femme qui a bouclé en 2018 un tour des 82 plus hauts sommets des Alpes, hein, donc une alpiniste chevronnée. Le milieu montagnard aime bien sa liberté. Et c'est très important de revendiquer cette liberté, ça va avec la culture de l'alpinisme. Alors forcément, quand il y a des règles pour interdire le bivouac, pour camper dans cet endroit bien spécifiquement, c'est pas forcément très bien accueilli. Il y a eu besoin d'un certain temps, de plusieurs mois, de quelques années pour voilà, intégrer ces règles. Mais maintenant, honnêtement, les choses se passent très bien. Moi, j'ai vu personne qui était énervé à cause de ces règles. Tout se passe bien, en bonne intelligence. Les relations sont bonnes entre la Brigade Blanche, les guides, les alpinistes. C'est fait, en fait, voilà, pour que les choses se passent mieux. Et ça marche bien. Donc maintenant, les choses se sont pacifiées.
Ah, le Mont Blanc draine aussi beaucoup de monde dans la région, notamment à Chamonix. Les locaux n'ont-ils pas peur des répercussions de ces mesures sur l'activité économique en été? En gros, si je peux pas grimper, eh bien je viens pas.
Alors, à Chamonix, il y a, et dans la vallée de Chamonix en général, il y a beaucoup de monde. Donc ils sont plutôt dans une logique de réduire les touristes, même dans la vallée, plutôt que d'encourager le tourisme. Aujourd'hui, le problème à Chamonix, c'est ce que le maire me dit, hein, c'est vraiment Éric Fournier qui dit ça, c'est les touristes excursionnistes, c'est-à-dire ces touristes qui viennent à la journée. C'est souvent des touristes français depuis le Covid, il y a aussi des touristes internationaux, hein, mais de plus en plus de touristes français. 70% des touristes français viennent en voiture, souvent individuels, donc il y a un vrai problème de circulation. C'est des gens qui arrivent, qui se garent, qui circulent, qui vont pas forcément consommer énormément parce qu'ils restent une journée, ils prennent une glace, ils prennent une photo, ils font peut-être une remontée mécanique et ils s'en vont. Donc ça pose beaucoup de problèmes parce qu'il y a des problèmes de gestion de déchets. Les poubelles à Chamonix, c'est vidé au moins 3 fois par jour. Il y a des poubelles qui débordent partout. Et en même temps, économiquement, c'est pas extrêmement intéressant pour la région. Donc tout le problème en ce moment, c'est d'essayer de transformer ces touristes excursionnistes en touristes de court ou moyen séjour, au moins 2-3 jours. Et pour ça, il y a beaucoup de choses qui sont faites en ce moment pour justement voilà, essayer de faire cette transition.
Justement, que peut faire la commune? Quels sont ses leviers pour réduire l'impact du tourisme de masse à Chamonix?
Il faut déjà dire qu'il n'y a pas énormément de leviers, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du département ou de la région, même plus loin, parce que là, le maire de Chamonix veut avoir un entretien avec le ministre de la Transition écologique. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas d'eux. En revanche, ce qu'ils essayent de faire, déjà, c'est tout simple, mais ils arrêtent de promouvoir la vallée et la région, que ce soit au niveau régional et au niveau international, en Chine ou en Inde. Ça, ils ont arrêté depuis des années parce qu'il y a trop de monde, ça suffit. Ils essayent de réfléchir à des moyens de transport, à mettre des passes pour des transports gratuits, en train, etc., pour fluidifier la circulation. Entre mi-juillet et mi-août, moi, on m'a dit, c'est impossible de circuler dans Chamonix. C'est des heures d'attente pour monter le matin, des heures pour redescendre le soir. Il faut même pas y penser, quoi. Ou alors, il faut s'armer de patience, mais vous choisissez. Donc, il y a cette idée de transport, il y a cette idée de parking, éventuellement. Mais ça, le maire est quand même pas très pour, parce que le reste du temps, bah, ces parkings, ils sont inutilisés. C'est des mètres carrés de goudron pour pas grand chose, donc lui il dit c'est un peu une aberration écologique. Donc c'est un subtil dosage en fait entre une interdiction d'une part, de la pédagogie pour que bah, ces touristes ils comprennent qu'il faut agir de manière écologique, durable, etc. Et puis de l'accompagnement, de la communication, de l'apprentissage en fait. Mais c'est quand même quelque chose qui prend du temps. Donc en fait on est quand même à la croisée là de plusieurs choses en ce moment et un grand défi pour la vallée de Chamonix en ce moment.
Merci Pauline Jacquot, journaliste aux Échos, pour cette bouffée d'oxygène et de fraîcheur. Demain, 3e épisode de la série, on quitte la neige pour le sable, loin, très loin, en Australie, à Byron Bay, avec Grégory Pless. Cet épisode de la story a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de la story sur les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.